Chose d'un peu plus précis, il se passe quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous êtes nos yeux sur la route, hein? 88-971-1021, texto.
Dans la catégorie « Je peux pas croire que les animateurs gagnent leur vie à faire ça », les nommés sont...
Pourquoi la schtroumpfette est toujours heureuse et souriante?
C'est...
parce que le gazon est long au village.
Il aurait fallu être aux Galeries de la Capitale ce jour-là.
Soyez pas des princesses. Quand tu croises quelqu'un qui a vidé ses 6 bières au cours, tu lui dis « Yo, gaucho! »
T'es en mode survie, t'as rien à manger.
Ouais, je pense que je mangerais gravel en premier.
Hey, j'ai dit...
Hey, hors contexte, c'est weird.
Oui, c'est correct.
Boulevard 102.1, une propriété Leclerc Communication. Et j'espère qu'ils écoutent pas trop souvent, sinon ils vont pogner un 2 minutes. Gravel dans le retour.
It's not for kids.
Une émission pour toute la famille.
You're not for kids.
Boulevard 102.1.
102.1.
Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. S'il y a quoi que ce soit dans la circulation ou ailleurs, 418-971-1021. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on le retrouve post-opération, on peut le dire comme ça. J'avais très, très hâte de lui reparler, puis il a recommencé à faire de la radio du côté du 99.5. Mm-hmm. C'est depuis quelques jours déjà. Mon ami Richard Martineau, comment ça va?
Ça va super bien depuis qu'ils ont enlevé ma sonde. OK, je vais t'expliquer là.
Oui.
Alors, je me suis fait opérer, et là, quand tu te réveilles de l'anesthésie générale, tu es sur la table d'opération, et là, tu regardes ton popaille.
Ouais.
Et là, il y a un tube de plastique dans ton popaille. OK? Alors, je vais te la montrer ici, le tube que je portais. Alors, ceux qui regardent à la tête.
C'est un gros tube, mon Dieu!
C'est quoi la longueur de ça qui rentre dans ton popaille, Richard?
Ça rentre dans le popaille, puis ça va jusque dans la vessie.
Mais okay? Le diamètre est gigantesque.
La longueur d'un doigt, okay. Là.
Tu m'attends 5 secondes. Faut que je contacte mon médecin de famille puis que je me fasse tester, genre, demain. Là.
Hey, mais est-ce que tu le sens tout le temps?
Ça, c'est la poche qui recueille le pipi.
Oui.
La nuit.
Oh. Okay. Oh là là.
Ça, c'est dans ton popaille. J'avais ça pendant 12 jours.
Ben voyons.
Est-ce qu'il arrive un moment, Richard, où tu le sens plus ou tu as tout le temps l'impression que c'est vraiment présent?
Audrey, tu le sens tout le temps, à chaque seconde. Tu te lèves, tu le sens, tu t'assois, tu le sens, tu marches, tu le sens. Et quand ça bouge, c'est comme si on faisait exploser un pétard dans ton popaille.
Ça fait
super mal. Et là, tu as une poche qui ramasse ton pipi pendant 12 jours. Là, c'est pas toutes les heures que je te tanne, c'est pas toutes les minutes, c'est chaque christie de seconde. Alors là, quand tu vas... Il y a quelques jours, je suis allé voir l'infirmière qui m'enlève ma sonde. Et imagine-toi, mon cher Denis, tu as ça dans le popaille.
Puis là, il te la sorte.
Tout le monde a ça.
Seigneur.
Imagine-toi, et là, l'infirmière qui est couchée sur un lit,
oui.
Elle pogne le tube, puis elle dit « Prends une grande respiration. »
Non.
Hey, salut à ça, tout le monde qui souffre dans leur char
et là,
actuellement.
Attire, schlac.
Oh, voyons.
C'est-tu de la douleur? C'est-tu l'effet de saisissement? C'est quoi que tu files à ce moment-là?
Écoute, les orteils te crochent, c'est comme... mais tu sais, c'est plus entre les deux oreilles parce que vraiment, tu ressens pas tant de douleur que ça. Mm-hmm. Mais tu le sens passer.
Hey.
Tu sens passer le truc. Mais après, dès que t'enlèves ça, t'es super bien, t'es libéré. Là, je me sens très bien. Il y a un seul... Écoute, moi, je suis transparent, je dis exactement ce qu'il y en est.
Ouais.
Parce que je veux dire aux gars, c'est quoi l'affaire, puis je veux peut-être leur faire peur aussi. Parce que peut-être en m'écoutant, les gars vont aller se faire tester. Mm-hmm. C'est qu'après 12 jours à avoir un tuyau dans le popaille puis dans la vessie, ta vessie devient paresseuse.
Okay.
Okay? Elle n'est plus habituée de se contrôler. Fait que ça, c'est un effet... un impact de ça, c'est que pendant quelques jours, quelques semaines, tu ne contrôles pas ta vessie, donc tu dois porter soit dans la journée... Là, aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est un pad.
OK, t'as un pad.
On dirait une serviette hygiénique de nuit pour ceux qui écoutent.
En fait, c'est un maxi pad, c'est ça?
Pas d'elle.
Alors, les filles, vous savez c'est quoi?
Ouais,
donc,
ouais.
Je porte ça et dans ma culotte, mais le soir... Tu sais, ça, il faut que tu changes ça quand même assez régulièrement. Mais le soir, pour dormir...
Ça prend une couche.
Et oui, c'est ça.
Moi, je... Soir, oh, wow, dormir, OK.
Tu dois porter ça. Ça, c'est la culotte d'incontinence.
OK, fait que les publicités qui disent que c'est discret, c'est des mensonges, là?
C'est gros. Et c'est la couche pour adultes. Et à chaque fois que je me promenais dans les pharmacies, je me dis tout le temps, c'est qui porte des couches pour adultes?
Et la réponse maintenant, c'est toi, Richard.
Et Denis, sur le l'emballage de la couche pour adultes, tu as le comédien qui porte fièrement sa couche.
Oui.
Je me dis toujours, tu sais, ce gars-là étudie en art dramatique puis rêvait de faire Shakespeare.
un jour, je vais jouer avec Brando, tu sais.
C'est ça. Et là, ce qu'il fait pour gagner sa vie, c'est qu'il se fait photographier en couche pour adultes sur des emballages. Alors voilà, bref. Écoute,
mannequin de couche.
Ça va durer quelques jours, ouais. C'est un peu humiliant, je dois dire, mais après ça, j'ai des exercices, je dois me serrer les fesses, relâcher les fesses. Mais écoute, il y a beaucoup de femmes qui ont accouché, qui m'ont dit qu'après leur accouchement, quand elle rit ou quand elle tousse ou quand elle éternue...
Ça ferme pas étanche.
Quand tu relâches et que tu serres les fesses, as-tu un petit mot de code, genre « OK, je serre les fesses, je desserre les fesses. Radio-Canada, TVA. Radio-Canada, TVA. »
C'est un nouveau truc pour le plancher pelvien, ouais.
Là, tu me fais rire, il y a des gouttes.
Génial!
Hey, Richard, il t'aime-tu? Ouais, oui, je l'ai fait pisser dans ses culottes.
Alors voilà, mais là, ça, tu sais, je suis en forme, le moral est bon et tout ça. Là. Donc, tout est correct. Très content de vous retrouver.
Écoute, Richard, j'ai été même surpris de la rapidité avec laquelle tu as repris ta vigueur sur les réseaux sociaux, entre autres. Puis tu sais, tu parlais « allez vous faire tester ». Puis je t'ai entendu en conversation, tu nous l'as dit aussi. J'ai entendu Régis Labeaume dans les dernières années, puis je pense qu'il a refait des entrevues dans la dernière semaine aussi. Puis il y a comme des gens qui disent « oui, il faut aller se faire tester, mais pas trop ». Et ce que j'ai cru comprendre, puis je trouve ça tellement triste, Richard, là, c'est que l'idéal, c'est qu'on aille tous se faire tester, mais je comprends que le système de santé n'est pas capable de nous recevoir si on se décide tout en même temps. Si j'ai-tu bien compris le codage puis les explications qu'on essaye de nous fournir par rapport
c'est
à ça?
C'est bien complexe, là, parce qu'il y a des gens qui disent « vous n'avez pas besoin, faites-vous tester seulement si vous avez des symptômes ».
T'en avais pas, Richard?
J'en avais aucun. Si je ne m'étais pas fait tester, ça aurait pu être grave parce que ma prostate était remplie de cellules cancéreuses. Ouais. Si je ne m'étais pas fait tester, il y a peut-être une cellule qui se serait échappée de ma prostate, qui aurait causé les métastases, puis là, ça aurait été le foutu bordel. Il y a des gens qui disent, oui, mais un des symptômes, c'est que tu te lèves souvent dans la nuit pour aller faire pipi. Faux. Totalement faux. Tu peux souvent te lever dans la nuit à aller faire pipi. Ça ne veut pas dire que tu as un cancer de la prostate. C'est assez compliqué. C'est assez complexe. Là. Donc, il faut en parler à ton médecin, tout ça. Mais je te le dis, là, ce que je dis aux gars, là, c'est ça dans le popper pendant 12 jours ou un doigt dans le cul pendant 2 secondes. Choisis, Denis. Qu'est-ce que tu choisis, Denis?
Richard, c'est parce que les gens n'ont pas vu la longueur de ta sonde. Moi, je l'estime à 7-8 cm peut-être qui rentre.
Plus un diamètre qui frôle le centimètre, c'est gigantesque.
Étais-tu conscient de l'intégralité de cette grandeur-là quand tu l'avais dans le popper ou c'est quand ils l'ont sorti que tu as saisi à quel point c'était gros?
C'est quand ils sortent. Sauf que ça bouge tout le temps. Dans la journée, tu as une petite poche qui est collée sur ta cuisse. Une petite poche. Et là, tu dois vider toutes les heures parce que tu ne le sais pas, parce que à l'intérieur du corps, on produit tout le temps de l'urine. Tout le temps, on est comme un percolateur. Tout le temps, on en produit. Donc, à toutes les heures, tu dois vider ta poche. Évidemment, la nuit, tu ne peux pas te lever à toutes les heures. Donc, ils te donnent une grosse petite poche, un 2 litres avec une poignée. Puis quand tu te réveilles le matin, c'est rempli de nectar de nid mousseux. Là.
Voilà, oui.
Et là, tu pognes ta poignée et tu marches tranquillement comme un vieux jusqu'à la toilette pour la vider.
Pour renverser.
Tôt. OK?
J'ai l'impression de retrouver le même Richard Martineau qu'il y a 2 semaines. T'as-tu l'impression qu'il y a des choses qui ont changé en toi? Je sais que je t'ai posé la question avant, mais on ne sait jamais vraiment avant. Tu sais, si on va se transformer, si on va vivre une expérience ou une autre. Puis comment tu te sens présentement? Puis as-tu l'impression d'avoir changé d'une façon ou d'une autre?
La meilleure phrase que j'ai entendue là-dessus, c'est ma blonde Sophie qui dit... on t'a enlevé la prostate, pas le cerveau.
C'est parfait.
je suis la même affaire, mais sauf que je suis avec pas de prostate, mais tu sais, j'ai pas vu la lumière, je suis pas devenu plus gentil, je commencerai pas à militer avec mes amis woke, et j'aurai pas de chronique dans le Devoir encore, là. Non, je suis le même petit grognon qu'avant. Là.
Mais oui, puis je suis convaincu parce que j'ai recommencé à lire tes textes. Hey, d'ailleurs, pendant 2 semaines, je sais pas ce qui est arrivé au Journal de Québec, il était 2 fois moins épais. Dès que t'écris pas dedans, ta barnouche, ça manque de contenu, là. Je veux dire, tu fournis 30 % du PIB de ce journal-là, à peu près, là, au total tout. Là. Mais sérieusement, Richard, il y a une chronique de tes dernières que j'ai beaucoup aimée parce qu'on est rendu là, hein, dans les extrêmes tout le temps. Puis tu parles de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Puis on a eu des beaux exemples avec l'élection de Donald Trump parce que tu as partagé sur tes réseaux sociaux un montage vidéo de ceux que tu appelles des woke qui partent en dépression nerveuse. Tu sais, des fois, tu vois du monde briser le TV parce que leur équipe a perdu le Super Bowl. Là, là c'est du monde qui ont bien, bien de la peine parce que Donald Trump a été élu. Puis là, c'est les crises de nerfs, de larmes, de dépression nerveuse, puis ainsi de suite. Puis à l'autre extrême, Richard, ben je regarde ceux-là qui fêtent le plus l'élection de Donald Trump. Puis moi, je me dis, ni d'un bord ni de l'autre, je me sens bien. Puis en même temps, c'est des gens qui se ressemblent beaucoup puis qui n'ont pas l'air de s'en rendre compte.
Mais je pense que toi et moi, Denis, on a cheminé pareil ces dernières années. Peut-être, tu sais, corrige-moi si je suis dans l'erreur, mais je crois que toi aussi, peut-être par un changement d'antenne aussi, tu as pris tes distances avec peut-être des gens qui étaient plus extrémistes. Puis tu sais, à un moment donné, on regarde les deux extrêmes puis on se dit, ben il n'y a aucun qui parle pour moi là-dedans. Là.
Je suis exactement là. Puis on ne s'est pas parlé de ça encore en conversation personnelle de vive voix, mais tu as mis le doigt sur le bobo, là, t'es dessus.
Tu sais, à un moment donné, je trouve que la position courageuse des fois ces temps-ci, c'est d'être de centre.
Oui.
Je suis centre-droit, je suis plus à droite qu'à gauche, mais c'est pas une droite sociale. Là, je suis pour le mariage gay, je suis pour le féminisme, je me réveille pas le matin en disant « maudit les trans », je peux comprendre fort bien qu'un gars soit mal dans sa peau et qu'il s'entende. T'sais, c'est pas ça, mais tu sais, à un moment donné, les deux extrêmes m'énervent, puis on dirait que les deux extrêmes se nourrissent l'un l'autre et qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et c'est comme Batman et le pingouin. Enlève le pingouin, Batman, il sert à rien.
Exact.
Batman, il a besoin du pingouin puis du Joker. Fait que Martine Delvaux, la féministe, qui dit que tous les hommes sont des oppresseurs puis tous les hommes sont des violeurs en puissance, elle a besoin d'Andrew Tate de l'autre bord. Tu comprends?
Ouais.
Elle a besoin du masculiniste crinqué, là, qu'il y a un gros gun chez eux, puis il y a des gros muscles. Là. Puis les deux, là, ils ont besoin un de l'autre, comme le pompier a besoin du pyromane, parce que s'il n'y a plus de feu, le pompier perd sa job. Fait qu'à un moment donné, tu regardes ces deux-là, puis tu dis, non, ni un ni l'autre, ni Martine Delvaux, ni Andrew Tate, tu sais, c'est comme...
C'est des gens qui se méritent bien, mais on dirait que présentement, c'est eux autres qui ont le monopole du débat ou de la conversation, ou à peu près. Comment on ramène le dosage dans l'espace public? Parce que j'ai lu beaucoup, depuis l'élection de Donald Trump, bien des analystes puis tout ça, puis il y avait un Français qui disait, fondamentalement, là, sur leur programme et leurs engagements, les démocrates et les républicains se ressemblent pas mal plus que ce qu'ils pensent, mais ils ont tellement fessé sur leurs différences respectives dans les 10-15 dernières années que le républicain, il voit le démocrate comme quelqu'un qui veut changer son petit gars en petite fille, puis le démocrate, ben, il voit tous les républicains comme des fous furieux, comme un Donald Trump, alors que la réalité, elle n'est pas là. Puis si on veut comprendre le résultat d'une élection comme on a eu la semaine passée aux États-Unis, il faut aller chercher ailleurs.
Il faut lâcher la caricature.
On le ramène comment, l'équilibre puis le dosage dans la conversation?
C'est une job qui est tough parce que tu dois te battre sur deux fronts. Tu sais, avant, quand tu es dans un camp, puis tu te battais contre le camp d'en face, puis c'est le fun. Mais là, il faut que tu te battes contre le camp d'en face, puis il faut que tu te battes contre les extrémistes de ton camp à toi. Là.
Ouais.
Tu sais, parce qu'il y a une gang de crinqués dans notre camp. Puis c'est essoufflant. C'est essoufflant parce que, tu sais, des fois, tu te rends compte que tu as des faux amis. Tu sais, il y a des gens qui pensent qu'ils sont tes chums parce que tu attaques, mettons, une féministe crinquée comme Martine Delvaux. Puis là, tu as des masculinistes qui disent « Martineau, moi, je t'aime, t'as l'air, je t'aime. » Là, tu es là. Non, je t'aime pas plus.
Pas toi!
Aime-moi pas! Tu m'aimes mal!
Tu fais pas mal comme ami. Tu fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème. Mais l'affaire, c'est que je vais répéter, puis tu sais, on répète toute la même chose. C'est les médias sociaux qui te gardent dans ta petite gang. Mm. Tu t'annules tous ceux qui pensent pas comme toi.
La chambre d'écho.
Des nouvelles qui feraient te confirmer dans ta paranoïa. Puis à un moment donné, tu veux pas, tu glisses dans l'extrême. Fait que c'est rien que de, tu sais. Je pense que c'est important de parler à des gens qui ne pensent pas comme nous, des fois, de temps en temps. Lire des livres qui sont écrits par des gens de gauche quand tu es à droite. Puis quand tu es à droite, ben, quand tu es à gauche, lire des livres qui sont écrits par des gens de droite, des fois, pour voir l'autre point de vue, puis discuter. Là, de plus en plus, c'est... Regarde ça, ce qui est arrivé, à tout le monde en parle.
Ouais.
Il y a une pétition, puis on ne veut pas l'avoir, lui, sur les ondes, un masculiniste, il ne devrait pas être interviewé à Radio-Canada. Puis là, ils l'ont annulé. Mais tu sais, non, tu interviews ce masculiniste-là, comme Sophie le fait hier au 99.5 à Montréal, puis tu lui poses des questions, puis tu le brasses, puis tu le confrontes. Mais là, ces temps-ci, c'est non. Il ne pense pas comme moi, je ne veux pas l'entendre. Je veux pas l'entendre, je veux rien savoir, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait que tu restes dans tes positions, t'es campé.
Moi, Richard, les gourous, c'est des gens qui sont à la recherche de publicité, puis moi, je trouve que l'erreur principale de Radio-Canada là-dedans, ça a été de l'inviter, puis après ça, de le désinviter. Là, tu lui donnes toute la gloire qu'il voulait, puis tu donnes plein de théories conspirationnistes à du monde qui se nourrit rien qu'avec ça ou à peu près. Mais moi, c'est l'étage d'en dessous que j'essaie de rejoindre, tu sais. Quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'est pas un influenceur, puis qui dit « Hey, moi, présentement, dans l'espace public, je cherche ma place, puis une fois de temps en temps, j'écoute un podcast, puis il y a bien des affaires qui disent qu'il n'y a pas d'allure, mais il y a bien des affaires où je me retrouve un petit peu là-dedans. Cette personne-là, ça m'intéresserait de l'entendre. La personne de l'autre bord qui, je sais pas, moi, est homosexuel, puis voit ça, tu sais, les parades, puis tout ça, puis le militantisme.
Ça reconnaît pas là-dedans.
Il y a bien des homosexuels qui en font pas du militantisme, mais qui se demandent peut-être aussi, tu sais, tout l'échiquier présentement social, comment on prend notre place là-dedans sans être un militant, puis sans dire...
Tu vas être obligé de s'afficher puis de porter une étiquette.
Puis t'en as parlé dans ton dernier texte, Richard. C'est pas parce que t'es noir que tu vas voter d'une certaine façon en bloc monolithique, puis c'est la même chose pour les homosexuels, les hétérosexuels, hey,
écoute,
et ainsi de suite.
Kathleen Jenner, l'ancien Bruce Jenner, là, qui est devenu une femme, bien, Kathleen Jenner, elle est contre le fait que des transgenres puissent compétitionner avec des femmes.
Mm-hmm.
Pourtant, c'est une transgenre, là, elle-même. Puis elle dit que ça n'a pas de bon sens.
Elle
est capable d'avoir des bémols, puis elle est capable de critiquer son camp. Puis là, on dirait, là, on veut des programmes toutes faits, des solutions toutes faites. Puis tu sais, il faut garder notre esprit critique. Puis moi, des fois, j'entends des choses de la gauche, puis je dis, ça a de l'allure, ça a bien de l'allure. Tu sais, quand j'écoute les gens de droite qui disent non, ça n'existe pas, les changements climatiques, c'est pas vrai. Mais là, tu dis, calvaire, vous vivez où, vous autres, Christy, là? Vous vivez-vous sur la Terre? Tu sais, non, les autres, non. Puis tu sais, un moment là, je suis tanné de ça, vraiment.
Je suis un peu à la même place que toi, puis je pense qu'on est quelques-uns à se chercher de même, puis j'imagine que si on a ce genre de discussion-là, bien, il y a peut-être... Je vois encore les extrêmes comme étant peut-être 5 % de la population, mais qui prennent 90 % de l'espace public, puis entre les deux pains sandwich, là, il y a toutes nous autres qui se posent des questions qui sont légitimes, qui ont des craintes, qui sont légitimes aussi.
Mais en
aussi.
Même temps, c'est les extrêmes qui créent la discussion, tu sais.
Oui, oui, mais oui, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, les médias, tu sais, les clashs, on aime ça.
Ouais,
fait qu'on
ouais.
va prendre quelqu'un qui est très, très noir, quelqu'un qui est très, très blanc. Puis
on
là,
fait un freak show.
On va faire un clash, puis là, c'est un bon show parce que les gens vont écouter, puis ils vont cliquer, puis tout ça, tu sais. Mais à un moment donné, c'est un piège aussi, là, tu sais.
Richard, je veux t'entendre sur Lucien Francœur. Parce que j'ai lu ce que tu as partagé sur ton Facebook, ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup ému, puis Lucien Francœur, ça va rester une grande frustration dans ma vie, c'est l'entrevue que je ferai jamais. Parce que Lucien Francœur, moi j'ai une petite prétention dans ma vie, j'en ai pas des tonnes, ma petite prétention c'est que la musique, je connais ça un peu. Ben en 46 ans, autre chose, et Lucien Francœur s'était passé en dessous de mon radar. Et il y a 3 mois, Richard, 3 mois, je suis tombé sur un show d'autre chose au Jardin des Étoiles sur YouTube. Puis je suis tombé en amour avec le personnage de Lucien Francoeur, les textes de Lucien Francoeur, la musique du band qui est hallucinante. Puis là, je suis tombé dans mon rabbit hole de Lucien Francoeur. Là, tu sais, là, j'ai découvert qu'il avait repris la musique d'autres choses avec des musiciens actuels, des gars de Grimmskong, de Voivode, de Groovy Aardvark. Je suis tombé sur le documentaire de sa fille qui m'a fait brailler comme une madeleine pendant une heure et demie où une fille essaye de retrouver la vie dans son père qui est en train de s'emmurer dans la solitude, l'alcool, la drogue. « Hey, papa, on va aller faire un road trip en Californie. On va essayer de te faire triper un peu, de te ramener à la vie. » Puis juste avant qu'il parte, tabarnouche, il fait une overdose d'héroïne, il se ramasse à l'hôpital. Ils font le road trip, ça marche plus ou moins. J'avais essayé de faire des démarches pour avoir Lucien Francoeur en entrevue, puis des proches de sa famille m'avaient dit « Lucien, il va pas bien, c'est peut-être pas un bon moment pour ça. » Et finalement, son décès a été confirmé. On parle tellement souvent des beaux dommages, des harmoniums, des Offenbach, mais tabarnouche, Lucien Francoeur, que tu sembles avoir connu pas mal, oui. C'était tout un personnage, puis je trouve qu'il mérite non seulement d'être salué, mais d'être ramené à sa juste hauteur.
Ben, je suis content que tu dises ça, puis en même temps, c'est pas étonnant hein, que autre chose, tu les as pas vus passer. Ça a duré 2 ans, c'est 1975-1976. Ouais. C'était une comète, là. Et tu sais, on parlait tantôt de l'importance d'être un peu à contre-courant des idées puis de brasser la cage. Imaginez, 1975, c'est l'année du premier album d'autre chose. Alors, on avait encore des gratteux de guitare, on avait les Séguins, Richard Séguin puis sa sœur qui parlaient du retour à la ferme, etc. Tu avais le deuxième album de Harmonium avec des paroles que personne ne comprenait. C'était bien flyé et tout ça.
Bonjour.
Tu sais, c'était encore le trip folklore, nature. Là, arrive Lucien Francoeur. Un de ses premiers shows, il est en talons hauts, des bas résilles, un dildo dans ses petites culottes, OK? Il chante le Freak de Montréal, des paroles comme celle-là. C'est une chanson d'hôpital avec une musique de malade. C'est une musique de mental avec des paroles de parade. C'est ça qu'il chantait sur scène. Et là, les gens disaient « What the fuck? »
Je suis le Freak de Montréal, l'univers est dans ma cuillère.
Et un ovni, littéralement. Il a amené le glam rock là, ouais. De David Bowie et toute cette gang-là. Puis un peu d'heavy metal sur la scène québécoise, c'était vraiment une révolution. Ça a duré 2 ans, c'était un ovni. Là. Après ça, il est devenu le porte-parole de Burger King.
Oui.
Et là, tous ses amis poètes disaient « Mais t'es écœurant, tu t'es vendu au diable, puis tout ça. » Lui, il a dit « Je m'excuse, là, mais moi, là, l'artiste là, qui meurt de faim, ça ne m'intéresse pas. »
Ah, puis je vais aller plus loin que ça, Richard. Je veux dire, le rêve américain, ça fait partie de ses textes, ça fait partie de lui. Il ne l'a jamais caché. Il est très Burger King, Lucien Francoeur. Là.
Exactement.
Oui.
C'est Jim Morrison, c'est le rêve américain, c'est Marilyn Monroe, c'est Elvis Presley, c'est Vegas. Et lui, il a été payé. Il dit « J'ai pu m'acheter une maison à Outremont, un quartier cossu. J'ai acheté une maison cash. » Avec l'argent que j'ai fait avec Burger King, ça ne m'intéresse pas d'être le poète là, maudit qui crève de faim. Écoute, il me racontait, quand je le voyais, Lucien, il me racontait ses années quand il faisait de la radio dans les années 80.
Ouais.
Quand tu faisais de la radio dans les années 80, tu avais un micro et à côté un bol de coke. OK, c'était ça, là.
À Québec, on me raconte exactement la même chose en passant. les premiers qui nous ont accueillis à la fin des années 90 nous ont dit « Hey, bienvenue en radio, vous arrivez 15 ans trop tard.
» Ben, tu sais, Lucien, là, il faisait, mettons, 5 bars par soir, puis il était 15 minutes, mettons, dans un bar, puis là, il disait « Venez me rejoindre, Lucien Francoeur. » Là, les gens allaient au bar parce que c'était Lucien Francoeur. Le bar le payait avec de l'argent en dessous de la table puis un sachet de coke. Là, il partait et faisait un autre bar puis faisait la même affaire. « Venez me rejoindre en avant-garde, Lucien Francoeur. » Écoute, un moment, il me disait à un moment donné, lui, il avait un show qui s'appelait le Francoeur Show à C'est quoi FM.
Oui.
Et à un moment donné, il est parti sur une ballonne avec 2 filles d'un motel. Et là, il s'est réveillé après une couple de jours, il était complètement flyé. Il s'est réveillé après une couple de jours puis là, il a entendu Michel Barrette qui le remplaçait puis qui disait « Bonjour, c'est Michel Barrette, vous êtes au Francoeur Show. » Puis il était là « C'est mon show, ça, comment ça se fait? C'est pas moi qui l'anime. » Il a sauté d'un taxi, il s'est rendu au studio, tu sais quoi. Là, il s'est couché à terre, il a pogné le micro, puis il dit « Bonjour, je suis revenu. » Ça, c'était hallucinant.
Oh, mon Dieu, Seigneur.
Il n'y a pas... as-tu pas je pense qu'on a tous un peu la peur de vieillir comme ça, parce que j'ai beaucoup pensé à Lucien Francoeur dans la dernière semaine, puis c'est un gars qui a tout, je veux dire. Il y a une femme qui est restée là malgré tout ça. Il y a une fille qui l'aime d'amour. Il y a un entourage. Il y a des musiciens qui lui ont donné une deuxième carrière. Et pourtant, la tristesse de ces dernières années-là, je le compare un peu à Renaud de l'autre bord de l'océan. Deux personnes qui disent « Toutes mes amis sont partis, puis je suis tout seul au bord. » Je trouve ça fucking triste, alors que ces poètes-là, ces grands artistes-là mériteraient, je sais pas moi, de vivre une retraite paisible puis d'avoir un sourire d'en face comme David Gilmour de Pink Floyd, mettons. Là.
Mais tu sais, quand tu dis là, je suis tout seul de ma gang. Écoute, c'est exactement ce qu'il me disait les dernières fois que je le voyais. Je le croisais parce que j'habite Outremont lui aussi. Mm-hmm. Je le croisais souvent dans la rue puis il disait « Ah, Richard, je suis tout seul. Tous mes amis sont morts. Tous mes amis poètes sont morts. Jerry est mort. Un tel est mort. L'autre est mort. Je n'ai plus d'amis. Je suis tout seul. » Et il y avait l'air d'un fantôme, d'un spectre. Mm. Et il y avait une tristesse chez lui là, vraiment très forte et de ne pas avoir été reconnu à sa juste valeur, etc. aussi, là. D'avoir été plutôt connu comme un clown, quelqu'un qui faisait, bon, c'est ça, de la pub de hamburger, puis qui faisait des shows.
Le rap à Bélé, pour bien du monde, Lucien Francoeur, c'est le Moses de rap à qui, le rap à quoi, le rap à Bélé.
Exactement. Et puis, c'est un poète intéressant, là. C'est un poète, tu sais, puis c'est quelqu'un qui a fait lire du Rimbaud à plein de jeunes Québécois qui ne connaissaient pas, là, tu sais. Hey, le gars, il a fait la première partie des Ramones.
C'est malade, ça.
Tu sais, là, c'est comme, c'est pas rien, là. Il est allé lire de la poésie à Paris, là, puis tout ça, là, tu sais, c'est pas rien. Puis à la fin, ben comme tu dis, c'était maudit que tu as la bonne image, c'était Renaud. Mm. Renaud qui s'embarrait dans un bar, tout le temps le même maudit bar à Paris, puis qu'il attendait que le bar ouvre. Dès qu'il ouvrait, il allait dans le fond du bar, puis il buvait du Pernod sans eau jusqu'à 3h du matin, jusqu'à ce que le bar ferme. Et là, il traversait la rue parce qu'il demeurait en face du bar. Mm-hmm. Okay? Puis il a fait ça pendant des années. Là. Regarde ce qu'il est devenu. Là.
C'est triste. Hey Richard, c'est un plaisir de te retrouver en pleine forme. Puis si on peut avoir ces petites conversations-là une fois de temps en temps, je pense que tout le monde va être heureux à Québec.
J'aimerais bien ça. Puis écoute, j'aimerais beaucoup ça. Puis c'est le fun que ça arrête là parce qu'il faut que j'aille changer mon pad.
T'es dû, là. Tu fais le plein.
Wow. Tu fais ça tout seul ou...
Il est lourd, puis il est chaud.
Tu fais ça tout seul ou t'as besoin d'aide, Richard?
Mais tu peux venir m'aider.
Non. Je vais te laisser faire comme un grand garçon. Merci, Richard. Salut.
Salut, trop bien. Salut.